Alors bonjour à tous ceux que j'ai pas vus ce matin. Merci pour ce beau témoignage. C'était très encourageant. Voilà, on voit Jésus à chaque fois. Hein. Jésus qui est là et qui, lui, ne nous lâche jamais, même si nous, parfois, on lui lâche la main sur le chemin. Alors, on termine ce matin cette série sur les lettres de l'Apocalypse. On a vu ensemble que toutes ces lettres étaient à la fois des lettres qui s'adressaient à des églises du 1er siècle, hein, donc directement, le Seigneur qui s'adresse à elles. On a vu aussi que chacune de ces lettres correspondait à une portion de l'histoire de l'Église et donc du christianisme sur 2000 ans. On a vu enfin qu'on peut en faire une application à nous-mêmes. Chacune des églises, en fait, ou de ces lettres, nous concerne. Nous sommes aussi touchés et peut-être le Seigneur a quelque chose à nous dire. Et maintenant, nous sommes à cette dernière lettre adressée à Laodicée. Et donc, c'est la dernière de la série des sept. Donc, ça veut dire, dans la chronologie, eh bien, c'est l'Église d'aujourd'hui, l'Église des derniers temps. Hein. Alors, on va lire ensemble Apocalypse 3, versets 14 à 22. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « je suis riche », je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci. Merci encore pour ce texte et merci pour ta parole qui est pleine de richesse et pleine de sens. Merci Seigneur, c'est incroyable que tu nous aies laissé cette parole vivante qui parle à nos cœurs. Et Père, que tu veuilles bénir encore, Seigneur, c'est toi qui l'as voulu ainsi. Tu as voulu nous enseigner par les Écritures. Alors, puisses-tu encore bénir ces instants, bénir ta parole, ouvrir nos cœurs, notre intelligence, nous donner d'être réceptifs et nous donner d'entendre ce que nous avons besoin d'entendre. Seigneur, garde mon cœur, ma bouche et glorifie ton Fils, Jésus-Christ. Merci. Amen. Alors d'abord, le mot de Laodicée, c'est intéressant parce que ça peut signifier droit du peuple, domination du peuple, vengeance du peuple ou encore justice du peuple, le droit du peuple, la justice du peuple. Et on pourrait dire, quand on regarde cette église de Laodicée, qu'elle se caractérise par une église qui recherche ses droits. Elle veut ses droits. Elle préfère satisfaire ses droits plutôt que ceux de Jésus-Christ. Et c'est une église où on va mettre en avant l'aspiration du peuple. Voilà, le désir du peuple au lieu de se contenter de servir Jésus-Christ. Alors on a vu que Jésus-Christ se présente à chaque église. À chaque début de lettre, il y a une présentation, moi qui suis. Et regardez ce qu'il dit là. Donc, il dit, voici ce que dit l'Amen. Donc, verset 14, « Le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Donc, trois choses. D'abord, l'Amen. Alors, le mot Amen, c'est un mot qui a été transcrit de l'hébreu directement, et puis voilà, qui a passé à travers les langues, c'est un mot universel. C'est un petit peu comme Alléluia, Alléluia, on ne le traduit pas. C'est dans toutes les langues, Alléluia. Eh bien, Amen, c'est la même chose. Et le mot hébreu est quasiment identique, c'est Amam. Amam. Amam, Amen. Et ça signifie croire, fidèle. Donc c'est, voilà, c'est un acte de foi. Hein. Et ça a pris le sens de sûr. Vraiment, voilà, quelque chose de véritable. C'est une expression de confiance absolue. On a confiance. À la fin des discours, déjà, les Hébreux disaient « Amam ». Ça veut dire « Oui, c'est sûr. Oui, je le crois. Oui, c'est vrai. Amam. » Maintenant, dire que Jésus est l'Amen, il est l'Amen, eh bien, il est le vrai. Il est le véritable. Il est le sûr. Il est le digne de confiance. L'unique digne de confiance. Qui pourra dire « Je suis l'Amen » Mais lui dit « Je suis l'Amen » et il l'est véritablement. Ensuite, il est le témoin fidèle et véritable. Jésus, d'abord, est venu nous témoigner de lui-même, nous témoigner de la vie éternelle, nous témoigner de l'amour du Père. Et on peut dire que lui est vraiment le fidèle. Parce que lui n'a pas chuté, n'a pas failli. Il a toujours été fidèle à la volonté de son Père et jusqu'au bout. C'est pas le cas de l'église de Laodicée. Qui est une église qui est centrée sur elle-même, qui se recherche elle-même, ou on va dire du chrétien de Laodicée, c'est pas un chrétien qui est fidèle. On voit Laodicée d'or, Laodicée se regarde elle-même plutôt qu'être centrée sur les intérêts de Christ. Alors le Seigneur lui rappelle que lui il est le témoin fidèle et véritable. C'est ce qu'il attend aussi de ces chrétiens de Laodicée. Laodicée, elle est dans un mensonge, dans une tromperie. Par contre, Jésus est le témoin fidèle et véritable. Ensuite, une troisième chose, il dit le principe de la création de Dieu. Il est le principe de la création de Dieu. Si on traduit littéralement, c'est le commencement de la création de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est la première créature, comme certains se plaisent à le dire et à l'enseigner. Non, c'est qu'il est à l'origine, il est au commencement de toute chose, il est au commencement de la création. Au contraire, ça veut dire qu'il est le principe même, c'est lui qui a créé toute chose. Il est le créateur. D'ailleurs, on le lit, hein, toutes choses ont été faites par elle, la parole incarnée, Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est possible aussi que le Seigneur parle ici de lui en tant que créature, le principe de la création de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'église de Laodicée était pas loin de l'église de Colosse. Et à Colosse, quand vous lisez l'épître aux Colossiens, vous apercevez qu'il y avait plein de croyances gnostiques où on diminuait la personne de Jésus, on en faisait un ange, voilà, on réduisait la personne de Jésus. Alors, eh bien, peut-être que cette pensée aussi, elle devait affecter aussi l'église de Laodicée. Voilà, il réaffirme, non, je suis à l'origine de tout, je suis le Créateur. Versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors pourquoi souhaite-t-il que Laodicée soit froid ou soit bouillant ? Alors bouillant, on peut comprendre, on se dit « voilà, bouillant pour le Seigneur ». Mais froid, ça semble un peu bizarre, hein ? Alors c'est intéressant d'aller creuser, et alors il y a des historiens qui sont allés creuser dans l'histoire de cette ville, et on a trouvé plein de choses qui sont vraiment très intéressantes. Notamment, Laodicée était sur une route qui mène à Colosse. Laodicée est une ville riche, une ville florissante, hein, mais un des gros problèmes de cette ville, c'est qu'elle ne possédait pas une source d'eau potable. Alors, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait venir son eau d'une autre ville, de Hiérapolis. Alors, on a retrouvé l'aqueduc hein, qui faisait acheminer cette eau jusque Laodicée. Mais l'eau qui sortait de Hiérapolis, elle sortait à 95 degrés. Donc, c'était une eau qui était bouillante. Et puis, acheminée sur l'aqueduc. Et finalement, elle arrivait là, mais elle arrivait un peu refroidie, hein, et elle arrivait tiède une fois à Laodicée. En plus de cela, les habitants se plaignaient de la mauvaise qualité de l'eau dans toute la région. Ils disaient qu'elle avait un caractère émétique, ça veut dire qu'elle donnait envie de vomir. Alors, on se servait déjà de l'eau tiède pour faire vomir. Et là, ben, elle n'était pas bonne, et en plus, elle était tiède. Et donc, on peut dire qu'à Hierapolis, il y avait ces sources d'eau chaude qui étaient réputées thérapeutiques, qui faisaient du bien. Voilà, les gens peut-être allaient déjà se tremper là-bas. Il y avait une autre ville plus loin, Colosse. Là, il y avait des sources d'eau fraîche qui faisaient du bien, hein, qui, dans ce climat qui était sec et chaud. Voilà, c'était bon d'avoir une bonne source d'eau fraîche. Mais à Laodicée, c'était ni l'eau chaude thérapeutique, ni l'eau rafraîchissante de Colosse, hein, mais c'était une eau tiède qui donnait envie de vomir. Donc, je dis, ça vient éclairer quand même certaines choses. Et c'est ainsi que Christ définit cette église, hein, ou ce chrétien de Laodicée. Et on peut dire, dans l'église de Laodicée, eh bien, voilà, on n'apporte plus rien en fait. Il n'y a pas de guérison pour le chrétien qui est malade. Il n'y a pas une eau rafraîchissante, celle de Christ, hein, pour venir désaltérer et faire du bien à l'enfant de Dieu qui a besoin et qui a soif, ou à l'homme qui a soif. Hein. Et le chrétien de Laodicée, c'est aussi quelqu'un qui ne va pas accomplir son rôle de témoin de Jésus-Christ. Il n'est pas un témoin fidèle et véritable. Il n'apporte pas ce qu'il devrait à ceux qui l'entourent. Il est ni bouillant, ni froid. Voilà, il est tiède. Alors Christ dit, « Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Quand on lit ça, c'est une terrible sentence. Hein, terrible sentence. Hein. Quoi de pire que d'être vomi de la bouche de Christ, hein. Ça signifie un rejet. Hein, un rejet pur et simple de Jésus-Christ. Hein. Et au sein du christianisme, c'est ce que nous montre le texte, au sein du christianisme, il y a certaines églises et certains chrétiens, je mets des guillemets, qui seront purement et simplement rejetés. Rejetés. N'y a-t-il pas ce texte, hein? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ça vient mettre un coup d'arrêt aussi à la pensée universaliste « Tout le monde sera sauvé. » Non, non. Comme dit la chanson populaire, « Tous n'iront pas au paradis. » Non, il y a des chrétiens qui iront en enfer. Ils ont le nom de chrétiens, mais ils iront en enfer. Hein? C'est ce que ce texte nous dit. Versets 17 et 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Et là, de nouveau, vous allez regarder dans le contexte historique et vous trouvez plein de choses. D'abord, je vous disais que c'était une ville qui était florissante, une ville commerciale. Et Laodicée était très, très riche. Elle était dans l'opulence, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient fait fortune. Et ils avaient tellement d'argent qu'ils estimaient n'avoir besoin de personne. Et c'est carrément, c'est écrit dans la pierre. On n'a besoin de personne. Dans la première partie donc du premier siècle, ils ont vécu un terrible tremblement de terre et plein d'édifices de la ville se sont effondrés, une ruine. Et plutôt que de dépendre de Rome pour construire, hein, puisqu'ils faisaient partie de l'Empire romain, ils ont tout reconstruit de leur propre denier. Ils ont mis la main à la poche, ils ont tout reconstruit sans rien demander à personne. Alors cette phrase, elle prend du sens. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, ni personne. L'historien Tacite dit, Laodicée se releva de ses ruines par ses propres ressources et sans aide de notre part. Voilà ce que témoigne l'histoire. En fait, la ville ne comptait que sur elle-même et sur ses propres forces. Alors c'est intéressant aussi parce qu'on a retrouvé plusieurs édifices qui ont été reconstruits où sur l'édifice, Il est écrit « par nos propres forces ». Voilà, c'est clair. Vaste amphithéâtre de 300 mètres de long, entouré de gradins, a été construit en 70 par un certain Nicostratus par ses propres forces. C'est noté dessus. Et on retrouve comme ça cette mention à plusieurs endroits. Et on pourrait dire, la caractéristique du chrétien de Laodicée, c'est qu'il ne prie pas pour remettre ses besoins à Dieu. Il ne prie pas. Il estime qu'il n'a pas besoin de prier pour demander à Dieu, parce qu'il agit par ses propres forces. Et vous savez, quand on vous dit « Oh, moi, je ne demande rien à Dieu, je lui dis simplement merci, il m'a tant amené, tant de bonté, comment ça, moi, lui demander quelque chose ?» Non, je le remercie, merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Vous savez, si quelqu'un vous dit ça, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe, parce que ça veut dire qu'il n'a pas de relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Nous lisons « Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications ». Donc à partir du moment où on n'a pas cette relation, on ne cesse pas de demander et de réclamer et de dépendre de Dieu, eh bien ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation en fait. Et c'est pour ça qu'on ne demande rien. Demandez et vous recevrez. On l'a vu ce matin et c'était beau cet exaucement. Dieu veut qu'on dépende de lui. Maintenant, ça doit nous parler à nous aussi, chrétiens du 21e siècle, où on peut dire que, voilà, bon, peut-être on ne roule pas sur l'or, mais on est quand même dans l'opulence quand on regarde le reste du monde. Hein. Les pays occidentaux sont quand même dans un certain confort. Hein. Et Dieu ne condamne pas les richesses, vous le savez, mais c'est l'amour de l'argent qu'il réprouve. Hein. C'est quand on aime trop et on est trop attaché à son argent hein, et tout ce que ça engendre après cela. Et la richesse, vous savez, elle est un problème et elle était un problème pour Laodicée en ce qu'elle détache de Christ. L'abondance peut nous détacher de la personne de Jésus-Christ. On compte de moins en moins sur lui parce que ben, tout va bien, on a ce qu'il faut. Hein. La richesse est comme une tour forte. On lit ça dans les proverbes. Le riche se fait de sa richesse une tour forte. Il se sent en sécurité. Je crains rien. J'ai toujours cet argent. Et donc, c'est la caractéristique de Laodicée. Je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien, même pas de Christ. J'ai tout ce que je veux. Et aujourd'hui aussi, on peut avoir finalement un peu ce sentiment. J'ai tout ce que je veux. Si je l'ai pas ce mois-ci, c'est pas grave. Je l'aurai le mois prochain. Ou le mois d'après, mais je l'aurai. Donc, on est dans l'abondance, une surconsommation hein, des biens, et ça peut nous détacher du Seigneur. Est-ce que le Seigneur reste au centre de ma vie matérielle, ma situation matérielle? Est-ce que je dépends de lui pour tout? Est-ce que, avant de faire un achat important, je vais prier, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ça? Est-ce que c'est bien, c'est ce que tu veux? Bien sûr, ce n'est pas pour les petites choses, mais pour les achats qui comptent, il faut demander. Il faut demander. Est-ce qu'on compte davantage sur ce qu'on possède? Et je sais que moi, quand il n'y a plus rien en compte, hein, et je suis un peu fébrile. On dit ouh hein? Mais voilà, ça nous rapproche du Seigneur et on compte davantage sur Dieu. Hein, Seigneur, c'est toi qui gères. Hein. Là, on est en live, comme disent les jeunes. Hein. Quand on regarde les églises de la Macédoine, qui n'avaient rien, ils étaient pauvres, ces églises de la Macédoine. Vous lisez ça dans le livre des Actes. Hein. Mais au sein de leur pauvreté, ils ont voulu aider l'église de Jérusalem. Et c'est beau, quoi. On se dit, mais... waouh! Quand vous regardez l'église de Jérusalem, eh bien, eux, ils ont voulu aider, vous remontez un peu dans le temps, hein, ils ont voulu aider eh bien, tous les chrétiens qui étaient dans le besoin. Alors, ils ont vendu leurs biens, etc. Et voilà, ils donnaient, ils étaient généreux. Et on peut dire, eux étaient vraiment attachés à la personne de Jésus-Christ. C'était lui qui comptait, il était au centre de leur vie. Et ce qui caractérise l'Église des derniers temps, eh bien, c'est l'abondance. Et c'est vrai, on est dans un siècle d'abondance. Et curieusement, plus l'homme a, et moins il donne. C'est fou, hein ? Vous regardez ça dans le monde, hein, vous le regardez un peu de partout. Hein. Plus l'homme possède, et moins il donne. Et on est riche, et on n'a besoin de rien. Et on peut avoir tendance à vivre pour accumuler davantage et davantage de richesses. Le monde remplit ses maisons, et puis le cœur, ben, il est vide. Il est profondément vide. Et qu'est-ce que c'est ? C'est la tiédeur. Dans l'église de Laodicée, c'est la tiédeur. Il n'y a pas d'envie de servir, il n'y a pas d'envie de s'offrir, il n'y a pas d'envie de se sacrifier, il n'y a pas d'envie de prendre de son argent personnel pour enrichir quelqu'un dans le besoin. Pas envie. Pas envie de parler du Sauveur. Pas envie de donner sa vie ou de s'engager pour quoi que ce soit. Et c'est quoi ? Ben, c'est la tiédeur. On est tiède dans cette église. Et le Seigneur dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est la condition du chrétien de Laodicée. Il pense que tout va bien et il ignore complètement sa situation réelle. Il pense qu'il est dans le vrai, qu'il est dans le bon, que ça va, Dieu me bénit, je suis dans l'abondance, tout va bien. Et en fait, eh bien, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, dit la parole de Dieu. Alors pourquoi Dieu dit qu'il est d'abord malheureux et misérable ? Malheureux et misérable parce qu'il n'y a rien de pire que de se fourvoyer soi-même, se tromper soi-même, penser quelque chose, mais on est complètement à côté de la plaque, complètement à côté. Et on ne s'en rend pas compte. C'est pour cela que cette église de Laodicée, ou ce chrétien de Laodicée, est malheureux et misérable, parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est pauvre, aveugle et nu. Il croit qu'il est riche, qu'il voit parfaitement, et que tout va bien, il est bien habillé, et tout ira bien pour lui. Verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Et il leur manquait trois choses. Il leur manquait de l'or, des vêtements blancs, et un collier pour oindre leurs yeux et voir clair. Alors d'abord, l'or. Dans la Bible, l'or, ça représente la vraie richesse. Alors, l'église de Laodicée, c'est certain, ils avaient des coffres qui étaient remplis d'or. Ils avaient l'or de ce monde, de cette terre. Mais le Seigneur voulait qu'ils aient un autre or. Il leur fallait acheter de l'or qui vient de lui. Pourquoi ? Parce que c'est la richesse du ciel. C'est ce qu'on emmagasine dans le ciel qui compte réellement. Le Seigneur a dit, c'est là où la teigne, là où la rouille, là où les voleurs ne peuvent pas percer, ne peuvent pas dérober. Ça, c'est acquis pour l'éternité. C'est ça qui compte. C'est ça qui est vraiment important. Et ça contraste encore avec cette église de Macédoine, qui était pauvre matériellement, mais qui donnait et qui était riche spirituellement. Et eux, à Laodicée, ils étaient riches matériellement. Et puis, ils étaient plutôt à resserrer sur eux-mêmes. Hein. Quand vous regardez le monde, on regarde la réussite d'un homme à plusieurs choses. D'abord, on regarde la réussite d'un homme à son travail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Il vous répond, ça y est, il est dans une case. On l'a mis dans une case. Si vous n'avez pas parlé avec lui, vous allez regarder sa voiture. Oh. On le met dans une case. Hein? Ou bien, vous allez regarder sa manière de s'habiller aussi. Ça, c'est les gens que vous les regardez de l'extérieur. Et vous mettez dans une case. Ou bien, vous regardez la maison. Et puis, de nouveau, voilà. On essaye de situer les gens de cette manière. Et le chrétien de Laodicée, il se regarde. Puis, il se dit, je suis bien quand même, moi. Hein? Waouh! Tout va bien, hein? Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai bien fait, hein? Dieu me bénit. mais il n'est pas riche, il est pauvre selon les critères du ciel. Et il faut faire attention aussi, parce que en tant qu'Église, qu'est-ce qui fait que l'on est riche ou pauvre? Est-ce que c'est de posséder un bâtiment? La vraie richesse, hein? Qu'est-ce que c'est la vraie richesse? Dieu ne regarde pas à ce qu'on possède. L'important, c'est pas tant d'avoir une salle qui est propre, confortable, accueillante, merci Seigneur, hein? Mais l'important, c'est surtout le Seigneur Jésus-Christ. C'est avoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ est dans l'Église. C'est ça qui est véritablement important. Si on saute à la conclusion de la lettre, on ne va pas le lire, mais vous allez vous souvenir, on voit que Jésus-Christ est à l'extérieur de l'Église de Laodicée. Et même, on pourrait dire, il se tient à l'extérieur même d'autres églises, hein, parce que c'est la conclusion, en fait, hein, de toute cette série de lettres. Il est dehors, il est à l'extérieur, il n'y est pas invité, il n'y habite pas. Et l'or de l'Église, la vraie richesse, ben c'est le Seigneur Jésus. C'est s'il est au milieu, alors ben, on est riche. S'il est dans le cœur d'une personne, alors la personne est riche. S'il est entré en elle, alors la personne, elle est véritablement riche. C'est la même chose pour chaque chrétien, de manière individuelle. On peut relever aussi, le Seigneur parle d'or, il dit d'or éprouvé par le feu. Et c'est pas le fait d'avoir une vie dorée, pleine d'opulence, de faste et de facilité qui procure l'or dont le Seigneur parle. Mais c'est le fait de passer par le feu, en fait. Hein. C'est l'or qui est éprouvé par le feu, ben, finalement c'est ce que l'on vit, qui nous apporte des richesses. Qui nous enrichit. On passe par des épreuves. On passe par des choses qui sont difficiles. En tant qu'Église, parfois, et puis individuellement. Mais quand on vit ces choses en comptant sur le Seigneur, en dépendant de lui, en développant notre relation avec lui, alors là, on est en train de s'enrichir. Là, c'est de l'or qui est éprouvé par le feu. Là, on est en train d'emmagasiner pour des choses qui sont éternelles, parce que notre cœur s'attache davantage à la personne de Jésus-Christ. Et ça, il n'y a rien de mieux, rien de mieux. On peut passer par des chemins qui sont terribles, mais si la finalité, c'est que je m'attache davantage au Seigneur Jésus-Christ, alors, amen, amen. Et on peut dire, les Laodicéens, eh bien, ne connaissaient pas cela. Ensuite, il leur manquait des vêtements blancs. Ils n'avaient pas de vêtements blancs, donc c'est les vêtements de la justice, en fait, les vêtements blancs. Et là encore, vous creusez dans l'histoire et vous trouvez quelque chose d'intéressant, c'est que dans la région de Laodicée, eh bien, ils avaient des moutons noirs et, semble-t-il, ils produisaient une laine noire pour faire des vêtements. Et le Seigneur leur parle de vêtements blancs. Ça devait leur parler quelque part. Il leur dit, il vous manque les vêtements blancs, les vêtements de la justice. Sans ces vêtements blancs, il n'y a pas de salut. Si on n'a pas ces vêtements blancs, on n'est pas sauvé. On ne va pas au ciel, même si on est chrétien. Ce n'est pas le fait de porter le nom de chrétien. On se souvient de l'histoire que Jésus raconte au sujet d'un homme qui est invité à des noces par le roi. Il entre dans la salle des noces, mais il n'a pas les vêtements de noces. Et à ce moment-là, le roi lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et l'histoire ici illustre finalement ces vêtements blancs. Les vêtements de noces, les vêtements blancs, c'est la même chose. Hein. Et il dit, tu n'as pas des vêtements de noces. Et il est rejeté. Encore une fois, des chrétiens seront rejetés parce qu'ils n'ont pas les vêtements de la justice de Jésus-Christ sur eux. Ils ne les ont pas. Et sans les vêtements blancs, il n'y a pas de salut. Le Seigneur dit, « Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. » Pourquoi ? Parce que Jésus a payé, justement. Il a donné sa vie, il a permis que son sang coule, il est mort pour nous accorder ces vêtements blancs. Et il n'y a que lui seul qui puisse nous les accorder. En fait, Jésus a vécu une vie parfaite, une vie sans péché, une vie pure, une vie blanche. et il nous la donne. Qu'est-ce qu'il demande en échange ? Une sincère repentance, où nous, on prend notre vêtement souillé, impur, sale, du péché, hein, parce qu'on est tous des pécheurs, et on lui donne. Je crois en toi, Seigneur. Prends mes péchés. J'accepte. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Et à ce moment-là, Christ prend ses vêtements et il nous donne les vêtements blancs de la justice. C'est merveilleux. Un échange. Hein. Il y a un échange qui se fait. C'est pour ça qu'il dit, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ensuite, un collier. Jésus lui dit qu'il lui faut un collier pour oindre ses yeux parce que l'église de Laodicée ou le chrétien de Laodicée est aveugle. Et on replonge un peu dans l'histoire. C'est intéressant parce qu'à Laodicée, on a trouvé qu'ils avaient une école de médecine. Et justement, on a découvert que dans cette école, il y avait un enseignement qui était un traité d'ophtalmologie d'un médecin qui s'appelait Démosthène Philalète. Et dans cette ville, on fabriquait aussi un collyre qu'on appelait pierre phrygienne et qui, paraît-il, améliorait ou guérissait. Alors, j'en sais rien. Hein. Mais c'est touchant que le Seigneur dise à ces chrétiens de Laodicée, il dit « Je te conseille d'acheter de moi un collyre parce que tu es aveugle. » Ça devait leur parler. Et c'est tragique de penser avoir une bonne vue, de penser qu'on voit clair, et en fait, on ne voit rien. On est aveugle. On est complètement dans les ténèbres. Dans l'évangile de Jean, il y a cette histoire d'un aveugle de naissance. Jésus passe sur le chemin et il voit cet aveugle de naissance. Et là, il va faire quelque chose de curieux. Il va cracher par terre, il va faire de la boue, et puis il va lui mettre de la boue sur les yeux. On se dit, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? Pourquoi mettre de la boue déjà sur quelqu'un qui ne voit pas ? Et Dieu, parfois, fait quelque chose pour qu'on prenne conscience qu'on a besoin de purification. On a besoin d'être lavé à la source de Siloé, c'est la source de l'envoyé, la source de Jésus-Christ en fait. Hein. Donc parfois il fait quelque chose pour nous montrer qu'on est aveugle. Parce que s'il ne le fait pas, eh bien on ne voit pas qu'on est aveugle. Alors il nous amène dans une situation, c'est une impasse complète. Et là, on se dit mince, hein, c'est pas ça. Et là, le Seigneur peut nous ouvrir les yeux et d'un seul coup, on se dit, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Et là, pour cet aveugle, il est allé se laver à la source de Siloé et ses yeux se sont ouverts, il a vu clair et c'était le besoin des Laodicéens. Ils avaient besoin d'un collier pour voir clair. Alors, verset 19. Il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Alors c'est une phrase ici qui est à la fois dure et en même temps pleine d'espérance. C'est les deux à la fois. Et quelle que soit l'église, que vous soyez dans l'église d'Éphèse, que vous soyez dans l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, celle de Philadelphie, celle de Sardes ou de Laodicée, Le Seigneur s'adresse à des personnes qui sont ou qui se disent chrétiens. À chaque fois, hein, il y a ceux qui le sont réellement, et puis il y a ceux qui pensent l'être, mais qui ne le sont pas encore réellement. Pourtant, ils sont dans la même église, mais ils pensent l'être. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il s'adresse à tous ces chrétiens, quelle que soit leur dénomination, quel que soit leur passé, quelle que soit leur conviction, quels que soient les siècles où ils vivent. C'est le christianisme d'une manière très large ici. C'est tous les chrétiens, comme on l'a vu dans les deux dimanches précédents. Il y a des paroles dures et en même temps, je reprends et je châtie ce que j'aime. Ce que j'aime. Et il y a un amour hein, aussi pour ces chrétiens. Hein. Et il faut relever que pour toutes ces églises, il n'y en a aucune où la porte elle est fermée. Et il n'y a rien à faire. Non. À chaque fois, il y a une porte ouverte. Il y a quelque chose qui peut se passer et ça passe à chaque fois par la repentance. Se repentir de ses péchés. Ici encore, il dit « Aie donc du zèle, sois sérieux, sois bouillant et repens-toi, reconnais ton péché et fais un demi-tour. » Alors, eh bien, les choses changeront pour toi. Et Jésus va lancer une invitation qui s'adresse à tous pour tous les siècles. Verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ce n'est pas parce qu'on pense être chrétien, ce n'est pas parce qu'on a été baptisé chrétien ou qu'on fait partie d'une église chrétienne, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, qu'on est obligatoirement avec le Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus est avec nous. Hein? C'est pas ça qui fait qu'on est chrétien. Ces deux chapitres de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, nous le montrent clairement. Jésus dit « Voici, je suis à la porte et je frappe, doucement, je frappe à la porte. » Le Seigneur est à la porte de certaines églises, à la porte de certaines dénominations, à la porte de certaines personnes, de certains cœurs qui pensent être chrétiens. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et là, il y a l'idée d'une intimité avec le Seigneur. Hein? Quand on soupe avec quelqu'un, voilà, on est à la même table, il y a une relation intime, comme quand on soupe en tête à tête. Hein? Et c'est une communion que le Seigneur offre ici. Il veut une communion avec nous. Et simplement, il faut l'accepter, lui ouvrir notre cœur, l'intimité de notre âme, et lui dire, Seigneur, entre, je me repens de mes péchés. Entre, viens chez moi, je t'invite chez moi. Tant qu'on n'a pas fait cette démarche réelle de repentance et de foi où on le laisse entrer, on n'est pas enfant de Dieu, on n'est pas né de nouveau. On n'est pas un vrai chrétien. On est peut-être chrétien, mais pas vraiment chrétien. Pas vraiment sauvé. Il faut passer par cela. Et toutes ces lettres dans l'Apocalypse nous le prouvent. Il y a des chrétiens, le Seigneur va les vomir de sa bouche. C'est terrible. Il y a des chrétiens, il va les surprendre comme un voleur. C'est encore dans une autre lettre. Il y a des chrétiens, il va les jeter sur un lit de souffrance et leur rendre selon leurs œuvres, leurs mauvaises œuvres. D'autres, il va les combattre avec l'épée qui sort de sa bouche, avec la parole de Dieu. D'autres, il va déplacer leur chandelier de sa place. Et c'est bien à des chrétiens à chaque fois qu'ils s'adressent. Ce sont à des églises. Alors, eh bien, ça nous renvoie à nous-mêmes et on se dit, qui suis-je ? Quel chrétien suis-je ? Quel type de chrétien suis-je ? Quelle sorte de chrétien suis-je ? Est-ce que je suis un chrétien d'Éphèse qui a perdu son premier amour et qui finalement est loin maintenant du Seigneur ? Est-ce que je suis un chrétien de Smyrne qui vit sous la persécution ? Est-ce que je suis un chrétien de Pergame qui se laisse corrompre par le monde et par les choses du monde ? Est-ce que je suis un chrétien de Thyatire qui a des qualités ? Des bonnes qualités, de la foi, de l'amour, des bonnes œuvres en abondance, mais pourtant qui laisse toute l'idolâtrie païenne entrer et qui le tolère très bien. Est-ce que je suis un chrétien de Philadelphie à qui Dieu donne une porte ouverte et le Seigneur dit « persévère, persévère ». Est-ce que je suis un chrétien de Sardes qui passe pour être vivant mais qui est mort, qui n'a pas de relation avec Jésus-Christ ? Ou bien est-ce que je suis un chrétien de Laodicée qui se croit riche et sauvé et qui ne sait pas qu'il est pauvre, aveugle, nu et perdu ? L'invitation, elle est pour tous. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est concret là. C'est une parole concrète. Ce n'est pas juste une belle parole. Il le fait vraiment. Sabine en a témoigné. Et beaucoup peuvent en témoigner. Moi, je peux en témoigner. Quand on se repent et on dit « Seigneur Jésus, il me manque quelque chose, je sais qu'il me manque quelque chose, entre dans ma vie, je me repens, sauve-moi », la vie, elle change complètement. Et il entre véritablement. Est-ce que quelqu'un entend sa voix? Est-ce que quelqu'un dit « Je veux aller plus loin ?» Et j'ai besoin d'avoir l'assurance qu'il est en moi. Et je veux cette intimité avec Jésus, cette relation personnelle. Versets 21 et 22. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Que celui qui vaincra, Joseph nous l'a relevé tout à l'heure, hein, être un vainqueur, c'est merveilleux. Et assis avec lui sur son trône, Dieu le Créateur, on devient son épouse, hein, l'Église est l'épouse. Et donc, on fait partie du royaume et on est avec lui sur le trône. Mais je termine avec cette phrase, hein. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça, c'est la fin. Il dit ça à chacune des églises, à chaque fois. Ça veut dire que je peux entendre et je ne fais pas cas. Et je ne ferai rien, il ne se passera rien dans ma vie et je continuerai dans la même voie. Voilà. J'ai entendu, mais je n'ai rien entendu. Rien entendu. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Alors je vais laisser Francisco.